Vous êtes sur RTL.
Votre journal avec Jérôme Florin. Bonjour Jérôme.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
Christophe Castaner charge le préfet de police après les débordements de samedi.
Le ministre de l'Intérieur a réaffirmé devant les sénateurs que ses consignes n'avaient pas été suivies. Il éloigne provisoirement le vent du boulet. Le cardinal Barbarin reste archevêque de Lyon mais se met en retrait. Le pape a refusé sa démission. Dans l'actualité également, les bandes rivales de Saint-Denis qui règlent leurs comptes dans les lycées. Plusieurs profs réclament leur mutation. Et puis cette première judiciaire pour les anti-Linky, des plaignants ont obtenu de pouvoir refuser l'installation de ce compteur électrique.
Dans 13 minutes, le surf de l'info. Bonjour Cyprien Sini.
Bonjour à tous.
Vous surfez avec le français.
Une chronique garantie sans Becherel.
De météo d'ici 7h.
À Ancenis, en Loire-Atlantique, le ciel sera nuageux aujourd'hui, mais sec. Il y est prévu 15 degrés cet après-midi.
RTL Matin.
Mais avant toute chose, quelle histoire, la fin d'un long, d'un très long mystère judiciaire.
Depuis 130 ans, on cherche à mettre un nom sur celui qu'il est convenu d'appeler Jacques l'Éventreur, qui avait semé la terreur dans les rues de Londres en 1888. Deux chercheurs anglais pensent l'avoir enfin trouvé. Leurs conclusions sont publiées dans une revue américaine de référence en matière de médecine légale. Le tueur de prostituées était un barbier venu de Pologne. En fait, c'était un des tout premiers suspects identifiés par Scotland Yard. Les chercheurs se sont basés, Philippe Corbet, sur des prélèvements.
Oui, ils ont mis plusieurs années pour isoler des restes d'ADN dans des traces de sang et de sperme retrouvées sur une écharpe en soie de l'une des prostituées victimes de l'Éventreur, massacrée, éviscérée en 1888 dans le quartier de Whitechapel à Londres. Et ils ont ensuite trouvé des éléments de comparaison avec l'ADN de descendants d'un suspect identifié à l'époque par la police, mais contre lequel aucune preuve n'avait pu être retenue. Aaron Kominski, venu de Pologne, barbier dans le quartier de Whitechapel, qui a ensuite été admis dans un asile pour des hallucinations paranoïaques. L'analyse ADN permet également de déterminer que l'Éventreur était un homme aux yeux marrons et aux cheveux bruns, comme Kominski. Les auteurs soulignent que les Londoniens, à la fin du 19e siècle, étaient plus souvent blonds ou roux aux yeux clairs. Cette découverte est contestée par d'autres chercheurs spécialistes des empreintes génétiques, notamment parce qu'on n'a pas la certitude que cette écharpe se trouvait sur le lieu du crime.
Il y a donc encore un doute malgré tout. Merci Philippe Corbet.
RTL, 6h32. Michel Delpuech, le préfet de police de Paris, officiellement remplacé aujourd'hui.
Le nom de son successeur venu de Bordeaux, Didier Lallemand, devrait être nommé à l'issue du Conseil des ministres ce matin. Si la machine a déraillé samedi sur les Champs-Élysées, c'est à cause de lui. Depuis lundi, le gouvernement en a fait son fusible. Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, qui a donc sauvé son poste, en a remis une couche hier devant les sénateurs en jouant au chef déçu.
Samedi, des instructions, par exemple sur le changement de doctrine d'usage des LBD, ont été prises au sein de la préfecture de police sans l'assentiment du gouvernement et des deux ministres qui sont devant vous aujourd'hui. Notamment sur l'usage des LBD, mais pas seulement, sur la mobilité, sur les interpellations. C'est donc, à mon sens, la responsabilité des ministres que de fixer une doctrine. Et la responsabilité du maintien de l'ordre public relève du préfet de police. Des décisions ont été prises au sein de la préfecture de police qui manifestement ne sont pas remontées au préfet de police, et c'est un dysfonctionnement grave.
Propos recueillis par Olivier Bost, deux autres têtes tombent, celle du directeur de cabinet du préfet de police et celle du directeur de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne. Quant aux dégâts sur les commerces, ils ont été réévalués, précision de Bruno Le Maire, le ministre de l'économie.
J'estime désormais, après les événements de samedi, en liaison avec la Fédération française de l'assurance, ce coût global des sinistres à 200 millions d'euros et non plus 170 millions d'euros.
De nouveaux appels de gilets jaunes à manifester samedi ont surgi sur les réseaux sociaux. Les villes de Toulouse, Montpellier ou encore Nice circulent. Christian Estrosi, le maire de Nice, demande au gouvernement d'interdire le rassemblement annoncé dans sa ville.
Ok, je précise qu'à 8h moins le quart, Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement, sera l'invité de RTL.
Le pape refuse la démission du cardinal Barbarin, invoquant la présomption d'innocence. L'archevêque de Lyon sera rejugé en appel avant la fin de l'année. Condamné à 6 mois de prison avec sursis pour non-dénonciation d'actes pédophiles, il se met en retrait et confie les clés à l'actuel vicaire général. Pour les victimes du père Prénat, le pape vient de commettre, je cite...
RTL Matin, Julien Cellier.
Et donc la suite de votre journal à 6h36 sur RTL. L'air est devenu irrespirable dans deux établissements scolaires de Saint-Denis, près de Paris.
Le lycée Paul-Éluard et le collège La Courtille sont devenus le théâtre de règlements de comptes réguliers entre élèves. Un enseignant qui a tenté de s'interposer a même été violemment agressé. Il y a quelques jours, une bande de jeunes s'est même introduite au lycée Paul-Éluard armée de battes de baseball et de marteaux. Ils cherchaient un autre élève. Certains jeunes ont décidé de ne plus retourner en cours et veulent être scolarisés ailleurs. Olivia enseigne les arts plastiques au lycée Paul-Éluard depuis 20 ans. Elle a demandé à être mutée.
On se retrouve face à des gamins qui sont dans une espèce d'escalade de violence parce qu'on a eu des blocages de lycée, ok, mais après ça a été des poubelles qu'on brûlait, après ça a été des cocktails de Molotov contre nous. Et puis là, on en est à des bandes armées qui déboulent avec des couteaux et des marteaux. Et moi, je me dis que nous sommes quand même de bons petits soldats. On continue à aller travailler dans ces conditions et nous sommes nous-mêmes finalement dans un espèce de déni de cette situation totalement explosive dont on ne prend pas la mesure. On a l'impression finalement, comme cette jeunesse, d'être aussi abandonnée. On a eu des visites effectivement du recteur, de la région, etc. On rehausse les clôtures. Mais ces gamins-là n'ont plus rien à perdre, monsieur. Et les familles elles-mêmes ne veulent pas parler parce qu'elles savent tout. On est dans une logique de vendetta, mais elles ne veulent pas parler parce qu'elles ont peur des représailles. Et finalement, on est en train, moi je suis personnellement, ça fait 20 ans que je suis là, je suis en train de faire le deuil de quelque chose qui me passionne, pour lequel je me suis toujours battue, et je change d'académie, monsieur.
Propos recueillis par Vincent Serrano.
Une première victoire pour tous ceux qui s'opposent au compteur Linky.
Le compteur électrique nouvelle génération inquiète encore de nombreux Français qui refusent son installation. Et c'est un jugement sans précédent que vient de prononcer le tribunal de grande instance de Toulouse. Il autorise à des plaignants souffrant d'électro-hypersensibilité de faire valoir leur refus. Écoutez leur avocat Christophe Léguevac.
C'est une avancée. Pour la première fois, une juridiction en France reconnaît que les malades doivent être protégés. Et pour les protéger, fixe deux objectifs. Premier objectif, ne pas installer de Linky chez ces personnes. Et deuxième objectif, faire en sorte que l'électricité qui arrive chez elles soit une électricité propre, c'est-à-dire ne soit pas contaminée par le fameux courant porteur en ligne, c'est-à-dire des hautes fréquences qui sont envoyées dans le système électrique pour capter les données et le comportement des consommateurs. L'important à chaque fois est que les malades démontrent leur état d'électro sensibilité avec des certificats médicaux pour arriver à convaincre le juge de la gravité de la situation. On peut imaginer, on peut surtout l'espérer, que petit à petit, elle fasse tache d'huile et qu'une jurisprudence partant de Toulouse se répande et soit confirmée par les cours d'appel et à terme, mais dans quelques années, par la Cour de cassation.
L'avocat des anti-Linky, Christophe Léguevac, avec Nicolas Burnand. Enfin, cette nouvelle claque judiciaire pour Monsanto. Son désherbant, le Roundup, a contribué au cancer d'un septuagénaire américain qui attaque en ce moment le géant agrochimique aux États-Unis. C'est l'avis du jury. C'est le deuxième revers en quelques mois pour Monsanto, condamné l'été dernier, je vous le rappelle, pour sa responsabilité dans le cancer d'un jardinier californien.
C'était votre journal avec Jérôme Florin. Merci Jérôme. Et à tout à l'heure à 8h avec Yves Calville.